Libre-échange avec Tamir Olfi.
Ravi de vous retrouver sur Aswat comme chaque semaine. Je voudrais commencer cette émission pour rappeler d'abord que sa première diffusion se fait toujours les mardis juste après les infos de 13h. Et si vous êtes à l'écoute de la rediffusion du jeudi, c'est une deuxième diffusion, celle du dimanche. C'est le plaisir de permettre à ceux qui étaient en activité le week-end de prendre le temps d'écouter Libre-Échange sur Aswat pendant la semaine, d'écouter le week-end. Je voudrais commencer par vous remercier de votre fidélité pour cette nouvelle année où nous vous avons accompagné sur les sujets économiques, où à chaque fois nous avons reçu une femme ou un homme qui est dirigeante ou dirigeant d'entreprise dans un secteur particulier pour faire le tour de l'actualité qui le concerne. Et cette semaine, on va faire une mission un peu plus longue que d'habitude. Je vous rassure, elle ne sera pas très longue, juste quelques minutes de plus, mais qui va nous permettre de traiter d'un sujet important, la loi de finances 2020, puisqu'on a beaucoup lu sur cette loi de finances, où les attentes étaient fortes, et nous allons pouvoir l'analyser avec notre invité de cette semaine.
L'invité de la semaine.
L'invité de cette semaine est M. Mohamed Hadid, qui est président de la commission fiscalité et régime de change au sein du patronat de la CGM. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, M. Hadid.
Merci, Tami.
Et pour représenter la Vieco, c'est son patron qui a fait le déplacement. C'est pour ça qu'on a mis, c'est pas pour les fêtes de fin d'année, mais c'est vraiment pour l'accueillir qu'on a mis les queues guirlandes et lumières dans les studios d'Aswat. Non, mais c'est une plaisanterie. Mais je suis ravi de recevoir Saad Ben Mansour dans les studios d'Aswat.
Merci, Tami.
Bonjour. Je voudrais d'abord, messieurs, puisque nous sommes en train de finir l'année, nous sommes à quelques heures pour le 31. D'abord, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à vous, au même titre qu'à toutes les auditrices, auditeurs d'Aswat, en souhaitant pour notre pays, évidemment, une très belle année 2020. Sihdid, on va d'abord commencer par dire, est-ce que globalement vous êtes satisfait de cette loi de finances 2020 ?
Merci, Tami. À mon tour, d'abord, de présenter mes vœux à tous les auditeurs donc, d'Aswat. Effectivement, la loi de finances 2020 est maintenant votée, publiée. Et effectivement, on peut dire que globalement, on est satisfait du résultat et du rendu final.
C'est une loi de finances qui, si on devait lui mettre un chapeau, est-ce que si je vous proposerais comme titre général de cette loi de confiance, restaurer la confiance, ça vous irait ?
Je dirais consolider la confiance.
Consolider la confiance.
Je préfère.
D'accord, non mais c'est bien, c'est un angle de vue. Consolider la confiance. Alors, quels sont les leviers de cette consolidation de la confiance dans la loi de finances ?
Je pense qu'au niveau de la loi de finances, on a beaucoup de choses qui vont dans le sens de la consolidation de la confiance. Nous avons déjà une batterie de mesures qui permettent aux contribuables, en général, de pouvoir régulariser leur situation fiscale. Et justement de se débarrasser, je dirais, de cette crainte d'être redressé ou d'avoir un rappel d'impôt. Donc c'est cette batterie-là de mesures permet effectivement, j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises, à tous les Marocains et aux opérateurs et aux entreprises de voir devant, donc dans le pare-brise, et d'éviter de voir dans le rétroviseur qui est trop petit.
Vous parlez des amnisties, bien sûr. Bon, c'est toujours bien pour le patronat d'avoir des amnisties.
Non, ce n'est pas d'abord des amnisties, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas des amnisties, c'est des procédures de régularisation de
situation. Oui, mais on efface un peu
c'est tous les citoyens. Donc, il ne faut pas qu'on dise c'est le patronat qui en profite, c'est tous les citoyens, c'est tous les gens qui ont des impôts à payer. Il y a d'abord une régularisation spontanée pour les... ceux qui ont des biens fonciers, ce n'est pas des patrons d'entreprise.
Bien sûr.
Tous les citoyens marocains qui ont des biens qu'ils louent, qui oublient, je dirais, pour de déclarer donc le revenu foncier et qui peuvent tout simplement payer 10% du loyer de 2018 et ne plus être régularisés et libérés de toute régularisation pour le passé. Donc, les mesures de régulation spontanée qui sont prévues par la loi de finances, ce n'est pas uniquement pour les entreprises, mais ça va justement dans cette situation, dans cette tendance de confiance qu'on veut pour tous les citoyens.
Quelles sont les mesures essentielles qu'on doit retenir dans ce sens ?
Vous savez, on a quasiment cinq mesures de régularisation, hein, si on peut dire. On a celle que je viens de citer pour les revenus fonciers. On a celle des avoirs, en fait, à l'étranger, qui a déjà été faite et qu'on refait une deuxième fois. On a celle du cash que ceux qui en disposent peuvent donc verser auprès des établissements de crédit et payer 5%. Et on ne va pas leur dire, à la limite, une fois qu'ils investissent, d'où vous avez cet argent. On a la régularisation, la quatrième, c'est la régularisation des déclarations donc des entreprises, qu'elles soient d'abord des personnes physiques ou des personnes morales. On a également, cette fois-ci, donc, l'amnistie, si je peux dire, pour les amendes, pour les chèques impayés. Donc, les gens peuvent régler donc, entre 10 000 et 50 000 maximum et retrouver leur situation normale.
Ça a bonne mention.
Non, je voulais juste rester toujours sur cette, la philosophie, le concept de l'amnistie. Bon, c'est effectivement,
il, ça peut... il dit, lui, c'est pas amnistie.
Oui, mais c'est, enfin, on va appeler par abus de langage des amnisties. On est à Allah himself. Donc, on vous régularisez, on vous dira plus. Bon, c'est un peu l'amnistie, c'est ça. Le... Je voulais dire juste pour vous, patron, en quoi le fait d'avoir des mesures de ce genre, en quoi elles vous permettent d'avoir de la visibilité ou de la confiance pour... parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ? Le privé, c'est il faut que le capital privé s'investisse hein, pour la croissance, pour l'économie. En quoi ce genre de mesures peut-il impacter et encourager le capital à s'investir ?
Vous savez, la confiance, c'est beaucoup de subjectifs, beaucoup de perceptions que d'objectifs et de concrets. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les gens, pour investir, ils réfléchissent mille fois avant de le faire. Vous voulez acheter une maison, vous vous posez la question, si j'achète la maison, est-ce qu'on ne va pas me dire d'où vous avez cet argent ? Après, vous retardez la décision. En retard, le temps est important. Donc déjà, ça ralentit le processus et ça ralentit l'investissement. Donc tout cela rentre, donc on veut dire, on ne va plus vous poser ce genre de questions. Ça libère les énergies.
Donc c'est ça, ça libère les sous, ça libère l'argent.
Quand j'ai dit les énergies,
oui,
c'est les sous ça, également.
Ça.
Parce qu'on ne peut pas agir sans les sous.
Bien sûr. Est-ce qu'on attend une relance de l'investissement, une relance d'argent mis en circulation ? Parce que un des éléments de la loi de finances, c'est que tout l'argent cash qui est sous le matelas, comme on dit... ou dans des placards, peut être aujourd'hui réinjecté dans l'économie de manière très simple.
C'est l'objectif. Je pense aujourd'hui, la mesure, la loi de finances, il a apporté le dispositif nécessaire. J'espère qu'il aura donc le succès attendu pour que justement remettre dans le circuit normal, donc formel, cette monnaie fiduciaire qui, tout le monde en parle, qui a un petit peu quitté les circuits bancaires normaux.
On attend de l'investissement dans des secteurs particuliers, je ne sais pas, dans l'immobilier en particulier, dans le commerce. Dans quoi, a priori, ça devrait se diriger quand on fait l'analyse vu du côté de la CGM et de l'État ?
Ce que je peux dire, c'est que on revient aux dispositions fiscales de la loi de finances, et c'est là où on peut dire qu'est-ce qui est, par exemple, l'investissement aujourd'hui industriel, entreprise industrielle. Donc, d'abord, ils sont exonérés pendant 5 ans, et après, ils payent un taux d'IS marginal, donc de 28%. Donc, pour celles qui vont se créer à partir de 2020, donc on sent et effectivement on comprend qu'on veut encourager.
Ça, c'est une mesure forte, Monsieur Hadid. Je voudrais rappeler que vous êtes le président de la commission fiscalité et régime de change. Il me semble que c'est quelque chose sur laquelle on doit s'arrêter, parce que pour que les auditrices et auditeurs se rendent compte que c'est un effort géant de la part de l'État.
Oui.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui décide en 2020 d'investir dans le secteur industriel, donc un secteur de transformation, pendant 5 années, il ne paye pas d'impôt. Alors en général, quand on investit dans l'industrie, les premières années, on ne gagne pas d'argent. Bon, mais si, au cas où on gagne, il n'y a pas d'impôt. Mmh. Et ensuite, on est à 28%, alors que les entreprises, de manière normale, elles sont à
31%.
Serdid, est-ce que vous ne pensez pas que avoir un impôt comme ça, flat, hein, c'est-à-dire pour tout le monde, c'est insuffisant? C'est-à-dire, demain, on est sur la régionalisation avancée, on vient de le voir. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revenir à un système où l'impôt sur les sociétés à Oujda, je dis n'importe quoi, dans l'Oriental, pourrait ne pas être de 28, mais par exemple, avec une exonération sur 5 ans à Agadir, il pourrait être une exonération de 6 ans. C'est la seule façon de... Non, vous n'avez pas ça dans vos plans?
Non, ce que je veux dire déjà, c'est juste pour corriger un petit peu. Le taux de 28% pour l'industrie s'applique à toutes les entreprises industrielles,
oui.
Même celles qui existent déjà. La seule limite, c'est que ce soit des entreprises dont le bénéfice ne dépasse pas 100 millions de dirhams.
Donc, ce qui est déjà très conséquent.
Même les entreprises.
Nous sommes en train de parler, monsieur Hadid, j'entends bien. Vous nous dites bénéfice. Les bénéfices. Ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice. Les entreprises qui font le bénéfice de 100 millions de dirhams, ce sont de belles boîtes.
Voilà. Donc, c'est des petites boîtes jusqu'à des boîtes moyennes, grandes.
De grandes PME, quand même. Une grosse PME.
Je dirais même de grosses PME qui font 100 millions.
Donc les petites et moyennes, c'est une occasion pour elles.
Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement ceux qui vont investir à partir de 2020. Ceux qui vont investir à partir de 2020 ont l'exonération totale.
De 5 ans.
Mais le taux marginal qui est ramené de 31 à 28, c'est l'ensemble des entreprises industrielles, même celles qui existent. La seule limite, effectivement, c'est ça. Maintenant, par rapport à la régionalisation, vous savez, on peut avoir des discours et des discussions sur le taux de l'IS importante et interminable. Aujourd'hui, on a un barème progressif. D'accord. On a un barème progressif. Donc, si on est dans une région, par exemple, défavorisée, donc on peut être, on a des bénéfices moindres et on a peut-être l'IS à 10% jusqu'à 300 000. On a 20% jusqu'à 1 million. Et ce n'est que de là de 1 million, on a 31%. Ça ne veut pas dire que je veux généraliser l'auto uniformisé à toutes les régions.
Oui.
Mais déjà, le fait qu'il y ait un barème progressif tient compte aussi de ça. C'est-à-dire, moins on paye, moins on gagne et moins on paye. C'est la progressivité.
Et est-ce qu'il y a de l'espoir que ce nombre effarant d'entreprises qui ne gagnent pas d'argent soit réduit avec tous ces dispositifs?
Oui, c'est l'objectif.
Je voudrais vous demander maintenant quel lien on fait entre la loi de finances 2020 comme elle vient d'arriver et les assises de la fiscalité qui étaient un temps fort dans notre pays, d'abord pour pouvoir préparer l'avenir et avoir une vision plus stratégique sur ces questions-là, tant sur la stabilité que sur la relation entre administration et les citoyens.
Vous savez, toutes les propositions fiscales de la CIGM ont été bâties autour de deux principes fondamentaux. Le premier, c'est les recommandations des assises. Le deuxième, c'est la consolidation de la confiance. Donc, tout ce qui a été fait, nous avons arrêté une dizaine de mesures importantes et de principes qui s'inscrivent toutes dans la lignée de ces deux principes-là, les recommandations des assises et la confiance. Les assises, c'était un temps fort, effectivement, de la fiscalité. On a eu l'occasion donc d'en parler déjà. Et c'est un travail, je pense, extraordinaire qui a été fait, puisque toutes les parties prenantes ont contribué à cette réflexion.
Et ça a donné lieu à une loi cadre.
Un projet de loi cadre qui doit donc avoir lieu. Donc il était prévu qu'il soit publié, donc il soit dans le processus donc avant la fin de l'année. Ça a pris un petit peu de retard, mais ça va arriver. Mais je peux dire déjà que tout ce qu'on a un petit peu traité dans la loi de finances 2020, il y a beaucoup de mesures qui s'inscrivent dans le prolongement.
Oui.
Quand on parle, par exemple, de mesures de restructuration d'entreprise, de simplifier, de ne payer l'impôt que lorsque réellement on réalise le résultat et qu'on encaisse le produit de la vente, etc., ce sont des principes qui ont été retenus, par exemple, avec la neutralité fiscale au sein des groupes, avec la constitution des holdings pour les personnes physiques, etc. Tout ça, c'est des mesures qui s'inscrivent dans le droit chemin des assises et des recommandations des assises.
Ça donne mon sol.
Pour rester justement sur les assises à Sirdil, il y a eu quand même des recommandations, mais on a toujours l'impression que c'est resté dans un cercle réduit aux entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise est le plus gros, c'est un contribuable, mais il y a aussi les contribuables, monsieur tout le monde,
les personnes physiques.
Autres, personnes physiques. Vous n'êtes pas concerné en tant que CGM, mais je voulais avoir juste votre appréciation sur la chose. Vous êtes important aussi que personne physique, vous êtes concerné.
Oui, nous sommes tous concernés en tant que citoyens. Ouais. Je pense que c'est beaucoup aussi un problème de perception.
Oui.
C'est peut-être que l'entreprise parle et
est organisée.
Oui, organisée, on l'entend. Mais je pense que la fiscalité, je peux dire que l'année 2019 est une année de la fiscalité, où chaque fois où on écoute, chaque fois où on lit, on trouve de la fiscalité, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc c'est véritablement une année fiscale. Pour les recommandations, je pense avec les moyens de communication aujourd'hui, ils sont publics, ils sont publiés, etc. Maintenant, c'est vrai que les initiés, les entreprises, etc., on les voit beaucoup plus que le simple peut-être citoyen.
Alors que l'entreprise peut aussi, de manière indirecte, faire beaucoup pour la, la fiscalité oui. sur l'impôt sur le revenu, qui est directement pour les personnes physiques.
L'une des recommandations de principal Milidis, c'était la révision du barème de l'IR. La CIGM a porté ça.
Mais ça n'a pas été fait.
Pourquoi? Parce que la réponse était ça a un coût budgétaire important. Mais on a demandé de relever la tranche exonérée. On a demandé d'augmenter la réduction d'impôts pour charges de famille. Malheureusement...
Est-ce qu'on vous a promis quelque chose pour 2021?
On n'a pas de promesse particulière par rapport à ça. Mais dans les recommandations des assises, comme on a parlé, il est clairement dit que le barème de l'IR, d'accord, le barème de l'IR sera révisé au fur et à mesure d'élargissement d'assiette et en fonction, bien sûr... De la formalisation des entreprises, on pourra s'y attendre
dans la loi cadre.
C'est inscrit dans le projet de loi cadre, comme quoi le barème de l'IR sera revu en fonction de l'élargissement d'assiette.
Juste une question par curiosité très rapide. Quand la loi cadre sera votée et disons en vigueur, hein, adoptée, comment elle va s'imbriquer avec les dispositions de la loi de finances, etc. Comment ça va?
La loi cadre a pour objet de fixer les objectifs et l'orientation. En fait, c'est une loi qui va guider donc, toutes les mesures fiscales qui vont être retenues dans les prochaines lois de finances. Mmh. Ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire que si demain, on vient avec une mesure qui ne s'inscrit pas dans ces principes, normalement,
elle ne passera pas.
Ouais. Donc l'objectif...
Ça crée un cadre pour mieux fonctionner, donner la stabilité.
Voilà, un cadre global dans lequel qui détermine un petit peu les orientations globales des prochaines, du système fiscal dans son ensemble pour les 5 années.
Mohamed Hadid, okay. J'aimerais vous poser une question très précise sur l'ensemble des mesures avec lesquelles vient la loi de finances 2020. Quelles sont pour vous les deux mesures les plus fantastiques que vous trouvez pour cette année?
Alors, je pense qu'on a déjà parlé donc, du taux de l'IS pour les entreprises industrielles. Oui. On a parlé. Deux, on a parlé donc des mesures et pour la régulation spontanée, mais aussi la structuration des entreprises. Je pense qu'on n'en parle pas souvent, peut-être pas du tout, mais aujourd'hui, il faut savoir que certains groupes d'entreprises contrôlés à 80%, on peut faire circuler les actifs corporels, incorporels et financiers sans payer d'impôt.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Et on ne paiera l'impôt qu'une fois qu'on aura réellement vendu le bien en dehors du groupe.
Il faut qu'il y ait une cession d'actifs.
Avant, exactement.
Mais les
avant,
actifs peuvent circuler
sans moyennant quoi? Tout simplement un droit d'enregistrement de 1 000 dirhams.
Oui, donc ça veut dire que l'État aujourd'hui est extrêmement ouvert pour permettre la restructuration des entreprises.
Bien sûr, je pense.
Concrètement, un groupe peut prendre un actif d'une filiale et le mettre dans une autre filiale.
Exact.
En payant juste 1000 dirhams de droits d'enregistrement.
C'est tant bien que le contrôle est à plus de 80%.
Soit exactement. Un actif immobilier, soit même des participations financières.
Ou incorporelles.
Okay. Bien sûr, il y a les droits de conservation foncière.
Bien sûr, c'est pas de la fiscalité.
Oui, mais sur la partie fiscale, c'est ça. C'est avant, on n'avait que les actifs corporels. Maintenant, on a les actifs incorporels et les actifs financiers.
Est-ce qu'il y a d'autres mesures sur lesquelles vous voudriez mettre la lumière?
Oui, je pense aussi, on a toujours demandé cette mesure. Je pense que ça concerne tout le monde. C'est de pouvoir créer des holdings pour pérenniser les participations dans les sociétés. Beaucoup de personnes physiques se sont développées rapidement en ayant plusieurs sociétés. Aujourd'hui, pour paraître comme groupe, il faut créer une holding qui détient tout ça. Ça permettra de faciliter la succession. Oui. Ça permettra de faciliter beaucoup de choses, d'avoir un groupe, de consolider les comptes et tout ce qui s'ensuit, d'être une force vis-à-vis des bailleurs de fonds. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ça, on a eu une mesure transitoire en 2014 qui est partie, qui est finie. C'est revenu maintenant, à partir de 2020, on peut donc créer
des holdings
sans payer d'impôts.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire au sujet de cette dernière mesure aux entrepreneurs qui sont des familles ou des entreprises familiales qui se sont développées
des participations éparpillées,
bien sûr. Etc., oui.
J'ai envie de leur dire d'en profiter, de faire le point, parce que comme je viens de le dire, ça permettra de regrouper, ça permettra de créer un étage, de laisser les entreprises travailler tranquillement.
Oui.
Et toutes les décisions sont prises au sein de cette holding-là.
Et pouvoir constituer une force. Face aux banques, particulier exactement. Quand il s'agit de lever des fonds.
Exactement.
Alors, l'idée, c'est qu'ils aillent voir leur expert comptable dans ce sens, non? Parce que parfois, c'est compliqué à faire ce type d'opération.
Hein. Alors, il faut voir son expert comptable.
Vous êtes... on a affaire à un spécialiste qui en parle comme ça. Mais celui qui nous écoute dans sa voiture ou chez lui... Non, bien sûr, mais il faut le voir un professionnel.
On a bien bien une profession d'expert comptable.
Oui, oui, je veux dire.
Bien constituée.
Non, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie technicité derrière ce type d'opération.
Ouais. Effectivement, et je pense qu'à partir d'un certain stade, le chef d'entreprise doit quand même être accompagné. Et c'est l'occasion, effectivement, de créer son propre groupe et être accompagné, effectivement, par l'expert comptable de son choix.
Ça demande sort. On va attendre vers la fin de l'émission, donc on va prendre les dernières questions.
Moi, je m'adresse à, non pas au fiscaliste, mais au représentant de la CGM. Vous ne pouviez pas échapper à la question. L'article 9, tout le monde en a parlé. Quelle est votre appréciation en tant que CGM de la situation? Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Est-ce que la CGM a voté pour ou contre? Et puis finalement, comment vous appréciez la situation? Est-ce que c'est une bonne chose?
Il faut expliquer aux auditeurs ce qu'est l'article 9. En
fait, l'article 9, en deux mots, je pense qu'effectivement, là encore, ceux qui s'intéressent à la matière comprennent bien et connaissent bien de quoi on parle. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un jugement contre l'État, une collectivité territoriale. Oui. Donc aujourd'hui, avec cet article-là, on ne peut pas saisir ces biens-là. Donc, ce qui s'est passé, moi je l'ai déjà dit, en toute franchise, c'est que c'est voté à la première chambre et à la deuxième chambre, les députés de la CGM, donc on a travaillé ensemble et on a dit... On peut proposer l'amendement qui consiste à dire il ne faut pas que le contribuable, en fait, que le citoyen, parce que ce n'est pas le contribuable, ce n'est pas le patronat, c'est le citoyen.
C'est
une mesure, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est tous les Marocains qui peuvent être concernés par cet article-là. Celui qui a été exproprié, celui qui...
C'est vrai.
Donc, la première chambre avait proposé donc, une rédaction qui apparemment a fait l'unanimité, donc, qui consiste à dire... Donc, on ne peut pas saisir les biens, effectivement, mais l'État s'engage à ce qu'il programme le paiement sur les 4 années à venir au maximum.
Oui.
Donc, l'amendement qui a été proposé par. Qu'on a proposé, en fait, que la CGM a proposé à travers les députés, c'est de dire on n'attend pas les 4 ans. À la limite, il faut qu'il y ait un jugement l'année prochaine, en programme.
L'année suivante.
Donc, il y a beaucoup de débats sur cet article 9. Je pense qu'il ne faut pas trop dramatiser ou stigmatiser la situation. De toutes les façons, c'est des choses qui existent même ailleurs, qu'on soit clair. Je pense qu'on n'a jamais parlé, mais ça existe. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on a eu également, nos députés à la CGM ont eu aussi des promesses pour que, lorsqu'il y a un jugement pour une entreprise, au profit d'une entreprise, s'il n'est pas payé immédiatement parce qu'il n'y a pas les budgets, on peut recourir au financement auprès des organismes bancaires ou de la titrisation. Donc, on vous donnera un document qui reconnaît la créance. Et vous pouvez la mobiliser auprès d'un bailleur de fonds.
Voilà.
D'accord. C'est maintenant, on va aller vers la fin de Libre-Échange avec vous cette semaine, dernier numéro de l'année 2019. Et ça va nous permettre de franchir le pas pour 2020. J'aimerais vous demander, au sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque nous avons une remise en question des avantages donnés dans les zones offshore, y compris à Casablanca, à Fine City. Et donc aujourd'hui, la situation a changé. J'aimerais vous demander d'expliquer quelle est la situation aujourd'hui dans la loi de finances et vous demander est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact pour l'investissement dans ces zones-là, dans notre pays.
D'abord, moi je pense sur cette question-là, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, à partir du moment où l'Union européenne s'intéresse à notre système fiscal, c'est déjà un bon signe.
Oui, mais ils ont plein d'espace chez eux.
Oui, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'ils considèrent que les avantages comparatifs sur lesquels ils étaient en avance, ils ne les ont plus.
D'accord.
Donc, ils sont en train, et avant, à la limite, qu'on ait des avantages fiscaux ou pas, ça ne dérange pas du tout, parce qu'ils disent, à la limite, bon, on n'est pas bon sur d'autres sujets. Et à partir du moment où on s'attaque à la fiscalité, ça veut dire qu'on est quand même...
On s'est qualifié.
Je pense que c'est déjà quelque chose. Pour moi, je vois les choses toujours un petit peu de manière positive. Maintenant, on est obligé. Le Maroc a choisi l'ouverture sur l'extérieur. Donc, on doit se conformer.
Mais on est dans une relation déséquilibrée. L'Union européenne a en son sein tout un certain nombre de zones où leurs contribuables, les contribuables internationaux, bénéficient d'avantages que nous n'avons même pas imaginés dans nos zones offshore.
Il faut qu'on explique les choses.
Le Luxembourg n'est pas sur la liste du gris.
Hein. Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres. On ne va pas rentrer dans le détail.
Si vous permettez.
Allez-y.
Si vous permettez, pour que les choses soient claires pour les auditeurs. Le problème n'est pas d'avoir une fiscalité basse. Le problème n'est pas de donner une exonération fiscale. Le problème, c'est d'avoir une exonération fiscale sur un secteur tourné vers l'exportation.
Oui.
Si vous voulez donner dans une zone un taux zéro, vous le donnez aussi bien pour la vente locale que pour la vente à l'export.
D'accord.
Et personne ne vous dira quoi que ce soit. La souveraineté fiscale, elle est acquise. Donc, le sujet, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez des systèmes fiscaux qui encouragent des activités tournées vers l'exportation. Et ces mêmes activités, s'ils sont tournés vers la vente locale, ils payent le plein pot. Donc, c'est ça, en fait, la pratique dommageable ou mesure fiscale préjudiciable, c'est ça. C'est lorsque ils ne sont pas appliqués...
Dans le cadre de relations de libre-échange.
Oui.
En fait, c'est un dommage pour eux dans le cadre de nos accords de libre-échange.
Ce n'est même pas de libre-échange, mais c'est du système fiscal. C'est autre chose.
Mais c'est-à-dire qu'on fait on va doper nos exportations vers l'Union européenne en particulier.
Au-delà de libre-échange, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il y ait des pratiques, ce qu'on appelle des pratiques fiscales dommageables au plan fiscal, indépendamment, même si on n'a pas l'accord de libre-échange.
Mais dans le cadre de situation d'exportation.
Bien sûr, d'exportation, bien sûr.
Allez, on va aller vers la conclusion.
Le mot de la fin.
Simran Hadid, c'est à vous de conclure et vous serez la dernière voix de nos invités pour l'année 2019 sur Aswad dans Libre-Échange.
Oui, je pense que la loi de finances 2020, je pense que c'est quand même un bon rendu pour cette fin d'année. J'espère qu'il sera comprise par tous et que ça permettra de relancer l'économie, de consolider davantage la confiance, comme on l'a dit au départ, pour un bon démarrage de l'année 2020.
Vous allez, vous en tant que CGM, partager, échanger, aller dans les régions, expliquer un peu tout ce que cette loi doit apporter.
Oui, pourquoi pas.
Il faut mobiliser peut-être les troupes de la CGM parce qu'on a besoin d'exemples dans le pays.
De toutes les façons, tout ce qui a été fait est partagé avec les administrateurs de la CGM, les unions régionales, les commissions thématiques, les fédérations. Tout est partagé et tout est travaillé dans une ambiance totale.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2020 à vous et aux vôtres et à vos activités, mon cher Saad. Belle et heureuse année 2020.
À l'année prochaine
évidemment, puisque cette émission est diffusée pour la première fois dans la semaine le mardi 31 et rediffusée les jeudis en fin de semaine. Je voudrais en profiter pour vous remercier de votre fidélité, vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2020. Et j'en profite aussi pour dire à toutes les équipes d'Aswat, merci et bonne année 2020 à toutes et à tous.